Bonsoir Alain, bonsoir Olivier, vous regardez Tout le monde veut savoir, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h au sommaire ce soir dans l'info du jour. À la veille des obsèques de Philippine, nous reviendrons sur les décisions qui ont conduit à la libération du suspect. Nous demanderons notamment à un ancien juge de la liberté et de la détention s'il y a eu ou non dysfonctionnement. Dans le débat du jour, nous irons au Liban où les bombardements israéliens continuent. La communauté internationale peut-elle éviter la guerre totale alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou refuse la trêve? Nous poserons la question dans un instant à nos experts. Et puis dans le duel du jeudi, il y aura comme un petit air de débat de l'élection présidentielle de 2007. Face à face, Ségolène Royal, l'ancienne candidate en 2007, sera face à l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud. Tout le monde veut savoir. Voilà le sommaire. C'est parti. Vous regardez Tout le monde veut savoir. Nous sommes à l'antenne donc. Et tout de suite, l'info du jour. À la veille des obsèques de la jeune Philippine, les questions s'accumulent sur le profil du suspect interpellé, marocain condamné pour viol, pas encore expulsé, et sur d'éventuelles failles de la justice. Pourquoi l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français, n'a-t-elle pas été exécutée? Comment comprendre la décision du juge de libérer le suspect alors qu'il reconnaît lui-même dans son ordonnance un risque de trouble à l'ordre public? Faut-il revoir ou non l'arsenal juridique, comme le dit le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau? Voilà les questions que l'on va poser à nos invités. Bonsoir Anna Cavana.
Bonsoir Benjamin.
Éditorialiste BFM TV, bonsoir Ludovic Friat.
Bonsoir.
Ancien juge des libertés, président de l'Union syndicale des magistrats. Dans un instant, on vous interrogera sur précisément l'ordonnance qui a été rendue par votre collègue ou ancien collègue. Bonsoir Dominique Rizet.
Bonsoir Benjamin.
Consultant police-justice BFM TV. Et bonsoir Laurent Geoffrin, bonsoir. Directeur du quotidien lejournal.info. Avant de nous interroger précisément sur la question des éventuels dysfonctionnements, je voudrais qu'on fasse un point avec vous, Dominique Rizet, sur l'état de l'enquête. Je le rappelle, le suspect a été interpellé en Suisse.
Mardi.
Il y est encore. Mm-hmm. Est-ce que l'on a des informations sur l'extradition à venir pour qu'il puisse précisément être interrogé par les policiers français?
Alors, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va être extradé. On n'a pas cette information. Ça peut prendre parfois du temps. Souvenez-vous du tueur des trains qui était au Portugal et c'était impossible de le faire revenir. En tout cas, c'était très compliqué. Il y a la collaboration donc entre la justice des deux pays, française, suisse. Mais bon, ça va aller quand même assez vite puisque la situation est plutôt claire.
Donc vous dites, ça va aller vite, oui. On est d'accord que l'extradition est essentielle parce que,
bien sûr,
en l'état, on a assez peu d'informations, si ce n'est aucune information sur les circonstances du drame et la façon dont Philippine est morte.
Bien sûr, il ne peut pas être entendu, donc il est tenu à la disposition de la justice française quand les autorités décideront que des policiers français peuvent aller le chercher et ensuite il sera entendu comme toute personne, voilà. En attendant, il est en détention en Suisse.
Je voudrais donc qu'on revienne sur la question des dysfonctionnements. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Il y a la question de la justice, de la décision de ce juge des libertés et de la détention. Il y a la question aussi des obligations de quitter le territoire français, ce qui est lié au fond à la politique migratoire. Je voudrais qu'on commence, Ludovic Friat, avec vous, ancien juge des libertés et de la détention. C'est intéressant de vous avoir sur ce plateau pour comprendre précisément ce qui a pu conduire une juge a décidé de la libération de celui qui allait devenir le principal suspect dans l'affaire du meurtre de la jeune Philippine. Le principal suspect passe plusieurs semaines en centre de rétention administrative et il y a cette décision de le libérer alors même que dans l'ordonnance du juge est écrit qu'il y a un risque de réitération et de trouble à l'ordre public. Est-ce que vous comprenez cette décision de votre ancienne collègue de libérer cet individu ?
Moi, ce que je tiens à dire, c'est que je comprends tout à fait que devant l'innommable, puisque c'est un crime affreux, les gens, nos concitoyens, cherchent à comprendre, et c'est logique, c'est humain, cherchent des responsables. Ce que je tiens à dire, c'est que le responsable, il ne faut pas nécessairement le chercher au niveau judiciaire, car le juge est là pour appliquer la loi. Je rappelle qu'il ne la vote pas, il l'applique. Parfois, il doit l'interpréter quand elle est obscure, mais il ne la fait pas, cette loi. Il est tenu par des critères légaux. Là, on est en matière d'OQTF, de quelqu'un qui est retenu sur une mesure administrative, ouais, et sur lequel un juge des libertés et détention va intervenir pour prolonger cette rétention, acte administratif. Il va intervenir, dans l'espèce, à 4 reprises. Il le maintient un mois, il le maintient un deuxième mois, il le maintient 15 jours. Et là, on arrive au bout du bout sur les 15 derniers jours. Et sur les 15 derniers jours, comme c'est une mesure un peu exceptionnelle, la loi, c'est pas le juge qui le dit, c'est la loi dit ça doit vraiment être très exceptionnel et ça pose des critères très restrictifs. Ces critères, très rapidement, ils sont 3. La personne s'oppose physiquement à son expulsion, la personne fait des recours contre son expulsion, des recours dilatoires, ou la personne n'a pas de papier. C'est le cas qui nous intéresse. Là, il n'a pas de papier. Mais la loi dit que le juge, quand il est saisi par la préfecture, par l'administration, doit statuer au vu de la preuve apportée par l'administration. Et cette preuve, c'est pas de papier. Et l'administration doit démontrer que ces papiers vont arriver prochainement. Ouais. C'était pas le cas. Et la preuve que c'était pas le cas, c'est que l'administration, c'est-à-dire la préfecture et le parquet, ne font pas appel de cette décision. Il y aurait pu y avoir un appel suspensif parce que, à ce moment-là, on ne sait pas.
Vous évoquez les critères. Restons vraiment précisément sur cette décision du juge. Quand on regarde la loi, il y a, vous connaissez ça mieux que moi, mais pour avoir regardé, un critère de risque, au fond, exceptionnel de trouble à l'ordre public. Là, en l'espèce, quand on regarde le pédigré de cet individu qui a été condamné à 17 ans, à 7 ans pour viol, et on parlera dans un instant avec Dominique Rizet de ce que l'on sait par ailleurs de la dangerosité du suspect. Là, pardon, mais quand on voit ça, on se dit que peut-être que le juge ou la juge a commis une erreur d'appréciation dans la dangerosité de ce suspect au moment de décider de libérer.
Là, pardon, la loi, alors après, on peut penser qu'elle est mal faite, on peut penser qu'il faut la modifier. La loi, elle vise ce critère d'ordre public, mais uniquement sur une dangerosité au sein du centre de rétention administrative. C'est pas une dangerosité absolue. Et si le juge, dans sa décision,
donc c'est quoi, la loi est mal écrite alors ?
Et si le juge, la loi est écrite comme elle est écrite, le juge l'applique, je le répète. Et si le juge, dans sa décision, vise à juste titre la dangerosité, c'est justement pour ne pas le mettre dans la nature complètement, mais c'est justement pour lui imposer des obligations de pointage, de résider quelque part. On est bien d'accord que ces obligations, il ne les a pas respectées, mais c'était la seule solution, la seule contrainte qui restait aux mains du juge.
Vous disiez, vous hochiez la tête en disant absolument, la loi est mal écrite.
Oui, elle est mal écrite parce qu'effectivement, vous avez raison. Donc, on tient pas compte de la dangerosité de cet homme dans ce qu'il a fait, et on sait qu'il est dangereux puisqu'il avait déjà violé, qu'il avait été condamné pour ça à 7 ans de prison. On tient compte de son comportement à l'intérieur du centre de rétention administratif, uniquement de ça, et dans les 15 jours qui précèdent, hein, c'est ça.
Absolument.
Uniquement les 15 derniers jours. Ça veut dire que là, la JLD, en l'occurrence, s'il s'agit d'une femme, a totalement appliqué les consignes. Donc, le droit tel qu'il est écrit, et effectivement, il faut réfléchir, que le législateur dise, on va écrire les textes autrement, on va réfléchir, on va faire les choses autrement. Sinon, la situation se reproduira parce qu'il y a un JLD qui est tenu à respecter le droit, rendra la même décision.
Laurent Geoffrin d'Acabana, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit tout à l'heure le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est exprimé sur le drame et le meurtre de la jeune Philippine. Regardez.
Cette barbarie qui fait tant de victimes parmi les Français, comme l'illustre malheureusement le meurtre abject de la jeune Philippine. J'ai pour elle, en cet instant, pour sa famille, une pensée émue. Face à ce drame qui révolte chaque Français, toutes les leçons, naturellement, devront être tirées.
Laurent Geoffrin, toutes les leçons devront être tirées. On a beaucoup entendu l'idée, qui était d'ailleurs souvent critiquée à gauche, un fait divers, une loi.
Oui.
Et là, en même temps, quand on voit ce qui se passe, et quand précisément dans la discussion que l'on vient d'avoir, il y a visiblement un problème dans l'arsenal juridique et législatif.
Autant, il ne faut pas légiférer sous le coup de l'émotion, c'est légitime de se poser la question. C'est un drame atroce, et apparemment, on aurait pu l'éviter dans certaines conditions. Il faut réfléchir sur la manière de faire mieux. Et cette question des OQTF est une question très importante.
Obligation de quitter le territoire.
Obligation de quitter le territoire, donc c'est l'expulsion des gens. Parce que c'est une loi qui, en fait, n'est pas appliquée à 90%. C'est intenable, cette histoire. Je dis ça parce que je suis plutôt catalogué à gauche, me semble-t-il.
Non,
ça vous surprend un peu, mais je vous confirme. Et donc, à gauche, on a tendance à dire « oui, mais non, c'est pas un problème, il faut pas en parler ». Si, il faut en parler, parce que l'équilibre pour une gauche raisonnable, c'est de dire « il faut améliorer l'accueil », pas que les nouveaux arrivants se retrouvent sous les ponts, ce qui entraîne souvent des problèmes de sécurité. Mais en même temps, il faut que l'opinion ait le sentiment que c'est maîtrisé. Or, si vous avez une loi qui n'est pas appliquée à 90%, c'est le contraire.
Quand vous dites loi pas appliquée, vous faites référence au fait que l'immense majorité de ces obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées, c'est-à-dire qu'elles sont délivrées, et derrière, vous avez ceux qui sont frappés par ces OQTF qui restent dans la nature.
C'est une loi inappliquée. Alors, c'est pas la peine de faire des lois si elles ne sont pas appliquées. Donc, c'est un objectif qui devrait être commun à la droite et à la gauche, de se demander comment les appliquer de manière plus... En Europe, ils font mieux. Alors, ils en délivrent moins, mais c'est très compliqué. Enfin, de toute façon, c'est intenable politiquement. Ouais. On ne peut pas dire aux gens, là, il y a une loi, mais 9 fois sur 10, on l'applique pas. Ça, c'est pas possible.
Anna Cabana, ce que l'on entend aussi dans cette réaction de Bruno Retailleau sonne particulièrement après les 48 heures que l'on a vécues, au fond de... Passe d'armes, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, désaccord entre le nouveau garde des Sceaux Didier Bigot, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, l'un disant il y a un problème d'inexécution des peines, et l'autre disons, répondant il n'y en a pas et il n'y a pas de laxisme
et
judiciaire.
Il
n'y
a pas de laxisme, absolument, non, mais c'est le mot passe d'armes est pas trop fort. C'est-à-dire qu'on était, c'est un rapport de force politique qui s'est installé dès la sortie du premier Conseil des ministres. C'est-à-dire que dès lundi, les mots avaient été posés par d'abord Bruno Retailleau et puis ensuite par Didier Migaud. Et ensuite survient cette abominable affaire philippine. Et là, évidemment, Bruno Retailleau prend l'avantage. Il prend l'avantage et d'ailleurs, on l'entend. Derrière le pupitre, là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit face à ce drame qui révolte chaque Français. C'est-à-dire que là, il prend l'opinion publique à témoin et on le voit. Il y a l'opinion publique devant l'abjection de ce meurtre. Évidemment, peut entendre mieux que jamais ce que veut proposer Bruno Retailleau, qui est un changement du cadre. C'est-à-dire qu'il l'a dit, il l'a écrit, il a dit s'il faut changer les règles, eh bien changeons-les. Et pendant ce temps-là, Didier Migaud, évidemment, ne dit plus rien. C'est-à-dire que quand ils sont convoqués tous les deux à Matignon pour une réunion, n'est-ce pas, censément pour discuter avec le Premier ministre.
Oui, c'est-à-dire que Matignon dit non, c'est pas du tout du recadrage.
Discours, voilà, non, c'est uniquement pour parler du discours de politique générale. Mais en fait, non, en fait, l'idée, c'est de trouver, c'est ce qu'ils espèrent, trouver une vision commune. Mais Benjamin Chiche, comment trouver une vision commune entre le seul membre de gauche de ce gouvernement et le plus gros poids lourd de la droite de ce même gouvernement qui a bien l'intention d'utiliser, au fond, ce qui s'est joué et l'émotion publique qui est née de cette affaire tragique.
Il faut bien voir aussi que le terme laxisme judiciaire est très connoté, quoi. C'est un terme militant. Ouais. C'est pas du tout une constatation objective. Le laxisme de la justice, ça se discute. Quand il y a 80 000 prisonniers en France, et si on demande aux magistrats, ils n'ont pas l'impression. Et en l'occurrence, c'est pas du laxisme, c'est la loi. Alors, il faut dire que c'est la loi qui est laxiste à ce moment-là. Mais c'est pas la justice.
Dominique Rizet. Laurent, on est capable de la changer, la loi. Je rappelle quand même qu'on dit que.
Mais ça, c'est pas la faute de la justice. On dit c'est pas
non, non, bien
judiciaire.
Sûr. On dit que cet homme
c'est
n'a pas.
C'est laxisme parlementaire, on pourrait
on
dire.
On dit que cet homme n'a pas bénéficié de liberté conditionnelle. Il est sorti en fin de peine. Il est sorti en fin de peine, effectivement, selon le jeu des réductions automatiques. Et je vous rappelle quand même, rendons-lui hommage pour ça, que depuis le 1er janvier 2023, Éric Dupond-Moretti avait supprimé les réductions de peine automatiques, hein. Depuis, le détenu est contraint de justifier une fois par an auprès du juge d'application des peines les preuves de sa bonne conduite en prison s'il veut obtenir une réduction de peine. Donc, les lois, on peut les changer.
Ludovic Fria, vous êtes, je le rappelle, président de l'Union syndicale des magistrats. Je voudrais vous soumettre la réaction du syndicat de la magistrature qui écrit notamment dans un communiqué de presse qui parle d'une confusion aussi démagogique que dangereuse qui est à l'œuvre, établir une causalité directe entre la non-exécution d'une mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière et son passage à l'acte criminel, le syndicat de la magistrature qui dénonce également l'activation d'une rhétorique xénophobe. Franchement, quand on lit ça, là, on a le sentiment que le syndicat de la magistrature est quelque peu en décalage avec sans doute le ressenti d'une majorité de Français quand ils voient, sinon une succession de dysfonctionnements, du moins, à minima, des textes qui ne sont pas adaptés aux circonstances qui ont conduit à l'irréparable.
Moi, je peux porter que la parole de mon syndicat, qui est le syndicat majoritaire et qui est un syndicat partisan. Ouais. On est très largement majoritaire. J'ai pas de nature à les gendarmer. Moi, ce que je constate effectivement, c'est que ça pose une réelle question. Et je rejoins sur ce que disaient les autres invités. C'est s'il y a un problème législatif, il faut que les députés le règlent. Mais attention, je repars là. Il faut peut-être une nouvelle loi, c'est une nouvelle loi, mais attention, il faut dans la loi toujours conserver l'équilibre, le juste équilibre entre la préservation des libertés publiques
mais alors, Ludovic Friard,
et la répression.
Prenons un exemple précis. Il y a quelques instants, la droite républicaine, menée par Laurent Wauquiez, va déposer une proposition de loi à l'Assemblée qui supprime les obligations de justification jusqu'à 90 jours de rétention en centre de rétention administrative et allonge la durée maximale de rétention. Mmh. Est-ce que ça, par exemple, ce serait des pistes qui permettraient d'améliorer la situation ? Je rappelle que dans le cas d'espèce, le suspect n'était pas allé au bout des 90 jours. Mais par contre, si vous considérez que le juge ne se prononce qu'une fois, peut-être y serait-il resté et il n'y aurait pas eu plusieurs décisions du juge qui auraient abouti à sa libération.
Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que peut-être, si on s'était occupé de récupérer des papiers sur cette personne avant qu'il sorte. Hein. Il est quand même resté 5 ans en France derrière les barreaux, ce garçon. Si ses papiers, on les avait eus tout de suite à sa sortie, il aurait été expulsé. Ouais. Je veux dire, par là. Donc, avant de dire il faut des délais très longs après la sortie...
Mais vous avez raison de poser cette question. Pourquoi ce n'est pas arrivé, ça? Pourquoi, effectivement, il n'y a pas une sorte, un mode de fonctionnement qui permet, une fois que l'individu a purgé sa peine, d'être directement expulsé parce que...
Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du volume de ces mesures, et il y a quelque chose du fonctionnement en silo, peut-être, de cette administration, entre l'administration, les préfectures, entre l'administration pénitentiaire, entre le judiciaire.
Et autre chose, un dernier point, c'est que le Maroc n'a pas répondu aux multiples demandes de la France pour valider le laissez-passer consulaire de ce monsieur, donc qui ne pouvait pas être expulsé vers le Maroc. Donc on traînait, et quand on arrive au bout des 90 jours, la JLD, la juge des libertés de la détention, dit « pour moi c'est plus tenable, je vais dépasser les délais », donc elle le libère. Mais il fallait aussi que le Maroc réponde.
Ce qui est dommage, c'est que le Maroc n'ait pas au moins envoyé un mail à la préfecture pour dire « on est en train de traiter votre demande, patientez. Ça aurait suffi, en fait.
Bien sûr.
Ça aurait suffi.
Bien sûr.
Dominique Rizet, ce qui frappe et étonne d'autant plus quant à la décision de la juge de la liberté des détentions sur le fait de libérer cet individu, c'est que l'on dispose d'informations sur sa dangerosité puisqu'il a été condamné pour viol en 2019, que par ailleurs, la victime, sa première victime, a décrit ce qu'était cet individu, que les enquêteurs également ont décrit cet individu. Et sa dangerosité, que disent-ils et que nous apprennent-ils de du profil du suspect?
Alors, on sait des choses par sa victime, qui avait 23 ans à l'époque, et qui a eu la vie sauve parce que, selon les enquêteurs, elle lui a parlé, elle a réussi à communiquer avec lui, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle a eu la vie sauve. Et vous savez, les enquêteurs disent, c'est vrai que ça fait peur quand on entend cette victime qui parle et qui explique que pour survivre, elle a dû accepter ce qui lui arrivait. Hein. Vous savez, les victimes de viol disent que il faut oublier son corps, il faut zapper et laisser les choses se faire en essayant de vivre.
Et c'est sans doute ça qui lui a sauvé la vie.
Ça lui a sauvé la vie. Ouais. Et on a eu beaucoup d'affaires ici dont on a parlé de viol et on en a traité dans fait entrer l'accusé plusieurs. Et on a souvent des victimes qui ont cette force de dire à un moment, je savais que c'était soit ça, soit la mort. J'ai accepté ça. Donc, cette personne, ce monsieur, donc, qui est le suspect, l'auteur présumé donc, du meurtre de Philippine, eh bien, avait un profil qui faisait peur, effectivement, et les policiers le décrivent comme un personnage terrifiant, voilà, pour les victimes. Donc, la force de cette victime lui a permis de vivre. On ne sait pas pour l'instant, il n'a pas été interrogé sur le meurtre de Philippine, dans lequel il est encore une fois le premier suspect. Mais c'est important de savoir et d'entendre ce que disent ces enquêteurs de la CRIM, qui avaient travaillé, puis d'autres enquêteurs de police judiciaire, sur la vraie personnalité de cet homme. Et puis, on aura aussi, sans doute accès aux expertises psychiatriques, psychologiques, puisqu'à l'époque, procès d'assises, donc expertise, et on risque d'apprendre des choses intéressantes, pour le moins.
Anna Cabana, Dominique Rizet a évoqué il y a un instant la question des obligations de quitter le territoire français, qui est au fond un serpent de mer du débat public français. Vous avez raison, Dominique, de dire que le Maroc a tardé, même si quand on regarde 2 mois et demi, on peut considérer que par rapport à d'autres pays qui parfois ne veulent pas délivrer de laissez-passer consulaire, il n'empêche qu'en 2 mois et demi, le Maroc l'a fait. Emmanuel Macron, je me souviens, dans une interview à Valeurs Actuelles, avait dit « l'objectif, c'est 100% d'obligation de quitter le territoire français exécuté ». C'est quoi? C'est un mal français? Quand on regarde l'Allemagne, on est autour de 40% d'OQTF exécutés, alors que la France tangente les 10% plutôt autour des 7%. C'est quoi là? C'est qu'on a des responsables politiques qui ne sont pas assez bons, qu'on a un système judiciaire administratif qui est totalement embolisé.
Mais c'est ça qui révolte au fond dans cette affaire, c'est ça qui crée une espèce de consensus de révolte sur la scène politique. C'est ce qui fait qu'au fond il faudrait se servir précisément de ce constat-là pour essayer de mettre autour de la table les responsables politiques raisonnables et d'avancer pour ne pas se retrouver à brandir de nouveau les étiquettes, vous savez, les chiffons rouges de la droite, de la gauche, et de se renvoyer dans la figure les arguments habituels. C'est-à-dire que là, il faudrait dépasser les arguments habituels, les petites chapelles, les petits clivages, et ne pas montrer Bruno Retailleau comme étant un monstre de la droite, versus Didier Migaud qui, lui, serait un angélique, etc. C'est-à-dire que c'est précisément, si la méthode Barnier peut aboutir à quelque chose, Benjamin, on n'est pas obligé d'y croire, mais on peut l'espérer, on peut en faire le vœu ce soir, bah, ce serait c'est d'arriver, au fond, à mettre ces deux hommes autour d'une table, mais et à travers eux, au fond, toutes les caricatures, précisément pour nous faire sortir d'une situation qui, sinon, est assez désespérante.
Et puis très vite, bien il y a une situation qui est terriblement humaine, c'est que cet homme, c'est le Mistigri. Est-ce que vous pensez que les autorités marocaines ont envie de le récupérer? Tout à l'heure, Karine de Ménonville nous donnait des chiffres sur l'Algérie, le Maroc, la Tunisie pour récupérer leurs ressortissants faisant l'objet de QTF. C'est à la marge, la récupération, c'est à la marge, parce qu'on n'a pas forcément envie de les voir revenir dans le pays. Je parle du cas particulier de celui-ci.
Bien sûr.
Voyez.
Oui, Laurent Geoffrin. Vous avez l'air de supposer qu'ils sont tous délinquants.
Quoi. Non, pas du tout. Non, sûrement pas moi. Sûrement pas moi, Laurent. Ça, je peux pas vous laisser dire un truc pareil. Je dis simplement que j'ai dit pour celui-ci. C'est pour celui-ci.
Souvent, les pays d'origine n'ont pas envie de les voir revenir pour une raison toute simple, c'est que ceux qui sont en France renvoient de l'argent chez eux, donc ça leur bénéficie. Et donc, c'est un rapport de force très difficile à établir entre la diplomatie française. Marocaine, tunisienne, algérienne. Ouais. À chaque fois, ça se mélange avec d'autres dossiers. Parce qu'ils ont un moyen de chantage aussi. Ils retiennent souvent ceux qui veulent venir en France. Donc ils disent, écoutez, si vous nous embêtez trop, on va finir par les lâcher. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'Espagne. À un moment, les Marocains ont dit, bon, à Ceuta, on laisse passer tout le monde. Et donc là, vous avez. Et donc cette question-là est effectivement très complexe. Mais encore une fois, le faible taux d'exécution est un drame politique, parce que pour les gens, ça ne marche pas du tout. Quoi.
Merci beaucoup, Madame Anna Cavana, messieurs, d'être venus sur ce plateau et d'avoir décrypté ce qui se joue. Y a-t-il eu ou non des dysfonctionnements judiciaires? Merci beaucoup et tout de suite, le débat du jour. Alors que la journée a été marquée par de nouvelles frappes israéliennes à Beyrouth, l'engrenage vers la guerre totale ne semble pas en mesure de s'enrayer, et ce malgré les appels au cessez-le-feu de la communauté internationale. Cessez-le-feu que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou refuse. Est-on à quelques heures, quelques jours d'une offensive terrestre? Que peuvent faire la France, les États-Unis pour arrêter le conflit? On pose la question à nos experts. Bonsoir Patricia Lemonnier.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Bonsoir Georges Malbruno.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient. Et bonsoir Thierry Arnaud.
Bonsoir Benjamin.
Éditorialiste politique international. Avant de vous interroger, mesdames, messieurs, je voudrais qu'on aille sur place retrouver Jérémy Normand, envoyé spécial à Saïda au Liban. Jérémy, vous revenez de la ville de Tyr, vous avez constaté des bombardements, vous accompagnez notamment des membres des secours. Racontez-nous ce que vous avez vu dans le sud du Liban.
Absolument, Tyr, c'est la dernière grande ville libanaise avant la frontière israélienne qui est située à seulement une vingtaine de kilomètres plus au sud. Pour nous y rendre avec Juan Palencia, il a d'abord fallu obtenir une autorisation spéciale donnée par l'armée libanaise, passer les checkpoints et puis rouler ensuite sur une autoroute déserte. Aucune voiture ne se rend vers le sud, seules quelques ambulances. Et puis dans le sens inverse, nous avons vu beaucoup de voitures avec notamment des matelas sur les toits, c'est ce qui nous a marqué. Une autoroute bordée, il faut le dire, par des drapeaux à l'effigie du Hezbollah. On sent qu'on est ici au cœur du bastion de l'organisation chiite. Et lorsque nous sommes arrivés sur place, eh bien, nous avons découvert une ville quasi déserte, vidée de ses habitants. Tous les commerces avaient leurs grilles baissées. Beaucoup d'hommes néanmoins dans les rues, beaucoup d'hommes à scooter qui tournent, qui regardent, qui entrent dans la ville, qui se rendent sur place. Des hommes qui sont venus nous voir évidemment, nous demander ce que nous faisions. Alors pour travailler, nous avons pu accompagner une équipe de secouristes qui se rend évidemment sur les lieux où les frappes qui se sont déroulées tout au long de la journée ont eu lieu. Nous avons donc pu les accompagner sur le lieu d'une frappe qui a détruit un immeuble. Je vous propose d'écouter ce témoignage que nous avons recueilli avec Juan Palencia.
Ma famille est à l'intérieur. Ma fille, ma nièce, elles sont à l'intérieur. Nous sommes toujours à leur recherche.
Votre sœur et votre nièce sont sous les décombres?
Oui, elles étaient à l'intérieur au moment du bombardement. Il va encore y avoir un bombardement ici, il faut partir.
Voilà, vous le voyez, des secouristes qui n'ont même pas pu continuer à chercher les corps éventuels, les personnes éventuelles qui seraient sous les décombres, car les bombardements se sont rapprochés beaucoup trop. Et donc cette ville, aujourd'hui, a été bombardée beaucoup, à de nombreuses reprises, nous avons pu le constater, car la guerre se rapproche. Ici, les habitants qu'on a rencontrés guettent sur leur téléphone les consultations à l'ONU à New York sur un éventuel cessez-le-feu, mais ils se rendent bien compte qu'ici, c'est la guerre qui se rapproche, et les hommes avec qui nous avons pu échanger dans la rue, ces hommes qui disent soutenir le Hezbollah, disent, eux, attendre cette guerre, attendre éventuellement une incursion sur le sol libanais de l'armée israélienne. Voilà ce qu'on a pu observer aujourd'hui à Tyr, dans le sud du Liban, avec Juan Palencia.
Jérémy Normand, en direct du Liban, avec Juan Palencia. Je voudrais commencer avec vous, Georges Malbrino. Fort de ce que vient de raconter Jérémy Normand et de ce que l'on apprend à l'instant, l'appel à une trêve au Liban a été lancé en coordination avec Israël, assure la Maison-Blanche. Dans le même temps, les autorités israéliennes expliquent qu'il n'y aura pas de trêve tant que le Hezbollah n'aura pas été détruit. Oui. Que faut-il comprendre ce soir? Et est-ce qu'on se dirige, oui ou non, vers une guerre totale?
Ben, il faut comprendre que pour la deuxième fois, d'ailleurs, en 4 mois, Benjamin Netanyahou a dit non à Joe Biden. Après, vous vous souvenez, en mai, lorsqu'il y avait une proposition américaine ratifiée par Israël de cesser le feu. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahou l'a dit durant son voyage à New York, il l'a répété en arrivant à New York, nous continuerons le combat tant que nous n'aurons pas atteint les objectifs de guerre, à savoir le retour des habitants du Nord chez eux. Donc voilà, il y a une nouvelle rebuffade encaissée par les États-Unis et accessoirement par la France. Est-ce qu'il y aura une riposte américaine? J'en doute. Ce qui est assez ironique, si on peut dire, c'est qu'on a appris au même moment que les États-Unis avaient voté une nouvelle aide militaire américaine, donc à Israël, de 8 milliards. Donc effectivement, on est dans un piège. Quant à votre question sur la guerre totale, je pense pas encore, parce que la guerre totale n'est pas dans l'intérêt du Hezbollah et ni de l'Iran, qui veut engager des négociations avec les États-Unis. Si le président Pezeshkian, qui est un peu...
Le président iranien, oui.
Oui, le président iranien, qui n'est certes pas détenteur du vrai pouvoir en Iran, a dit ça, c'est qu'il a eu l'aval du guide suprême, qui lui est détenteur du vrai pouvoir. Donc l'Iran est dans une phase actuellement de négociations, de recherche de négociations. Donc voilà. Donc demain les choses peuvent changer parce qu'on a le sentiment quand même que le Hezbollah a mandaté Nabi Berri, le président du Parlement, le soin de négocier un éventuel cessez-le-feu. Le Hezbollah pourrait l'accepter, aurait pu l'accepter parce que il a quand même pris beaucoup de coups. Donc ça pourrait lui permettre une pause. Mais là, on s'achemine vers une poursuite des combats, une poursuite des bombardements, et donc une poursuite des bombardements, ça veut dire que le cessez-le-feu n'aura pas été respecté.
Poursuite des bombardements, Patricia Lémonière, très concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on est à quelques heures, quelques jours d'une offensive terrestre, puisque les autorités israéliennes continuent de refuser une trêve, un cessez-le-feu, tant que le Hezbollah n'est pas détruit?
Alors ça, c'est on n'est pas dans la tête des stratèges militaires, enfin des tacticiens plutôt, qui mesurent quand. En tout cas, ils se donnent les moyens de le faire. Ils ont quand même des très mauvais souvenirs de 2006 et d'avant.
Et de 82.
Oui. En 2006, quand même, depuis ce qui s'est passé en 2006, on a vu à quel point les militaires israéliens avaient appris de cette guerre. Et en fait, finalement, l'offensive aujourd'hui, la préparation et tout ce qui est mis en place aujourd'hui avec ces pilonnages, avec avant l'affaire des beepers, etc., ça vient de 2006. C'est-à-dire qu'ils ont appris à ne pas refaire les mêmes erreurs. Ça vient aussi du fait qu'ils ont vu à quel point le Hezbollah, en portant secours, en quelque sorte, à Bachar al-Assad, avait appris et s'était étoffé. Donc, voilà, l'armée israélienne, si les politiques le décident, c'est-à-dire si Netanyahou le décide et donne le feu vert, ils peuvent effectivement y aller. Pour l'instant, je crois qu'ils poursuivent leur politique de pilonnage. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le Hezbollah a toujours rattaché le cessez-le-feu à Gaza, c'est-à-dire que ça pouvait s'arrêter s'il y avait un cessez-le-feu, mais aujourd'hui, est-ce que cette clause peut évoluer? En tout cas, la tentative des Français et des Américains, c'était de déconnecter Gaza de l'affaire libanaise. Et dernier point sur lequel j'aimerais faire une petite remarque, c'est que pour une fois, les États-Unis et l'Iran sont d'accord. Incroyable, ils sont d'accord pour qu'il n'y ait pas d'escalade. Chacun pour leurs raisons, mais les deux, ces deux puissances qui tiennent finalement le Proche-Orient, sont d'accord pour éviter un embrasement.
L'Iran étant la puissance qui arme, finance le Hezbollah, exactement, qu'on considère comme ce qu'on appelle un proxy. Pour continuer à parler de ce que peut faire la communauté internationale face à cette situation, je voudrais qu'on réécoute ce que disait le président de la République, c'était à la tribune des Nations Unies hier soir. Écoutez Emmanuel Macron.
Il ne doit pas, il ne peut pas y avoir de guerre au Liban. C'est pourquoi nous appelons avec force Israël à cesser l'escalade au Liban et le Hezbollah à cesser les tirs vers Israël.
Thierry Arnaud, il prêche dans le désert, le président de la République, comme le président américain qui, compte tenu de la situation, de sa situation personnelle, a moins d'influence, moins de pouvoir qu'il en avait il y a quelques mois.
Exactement, et c'est d'autant plus frappant qu'il le fait à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a réuni en urgence un conseil de sécurité hier à la demande de la France. Que peuvent faire les Nations Unies ? Restaurer le droit international. Restaurer le droit international, ça voudrait dire, par exemple, faire en sorte que au Liban, ce soit le gouvernement qui gouverne et l'armée qui soit la seule puissance armée, que ce ne soit pas une milice. Ça s'appelle en partie la résolution 1701 des Nations Unies, qui remonte à 2006. On pourrait dire aussi, voter des résolutions, ça sert à rien. Donc on va déployer des soldats. On va déployer des soldats à la frontière, des casques bleus des Nations Unies, on va les mettre là, on va définir une frontière et on va faire en sorte qu'ils garantissent le maintien de la paix. Ça s'appelle la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies pour le Liban. Elle existe depuis 1978. Donc tout ça, ça vous montre à quel point la communauté internationale a cherché la solution tout en ne la trouvant pas et à quel point elle a été impuissante depuis... pratiquement 50 ans maintenant face à cette crise.
Alors qu'on voit des images du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou
qui arrive à New York,
en train d'arriver à New York aux États-Unis pour précisément assister à cette Assemblée générale des Nations Unies. Je voudrais qu'on fasse un point de pédagogie, Georges Malbruno, vous qui connaissez bien le Liban, la région, parce qu'on parle beaucoup du fleuve.
Litanie.
Le fleuve Litanie, on va le voir apparaître sur une carte dans un instant. Il est au sud Liban. L'un des arguments israéliens pour dire de toute façon il ne peut y avoir de discussion, de pourparlers, de cesser le feu, c'est que l'accord selon lequel au sud du fleuve Litanie il n'y a pas de troupes n'est pas respecté.
Oui,
ça fait partie de l'équation.
Ça fait partie de la 1701
au Liban.
Ça fait partie de la résolution 1701 qui a conclu la guerre de 2006. Dans cette résolution, il y avait effectivement l'armée libanaise se déployait au sud du fleuve Litanie à la place du Hezbollah et de son côté, Israël arrête de survoler le territoire libanais et se retire aussi d'une petite portion de territoire. Donc des deux côtés, ça n'a pas été respecté. Et alors, ce qui est intéressant, on parlait de l'offensive terrestre. Moi, j'y crois pas trop parce que c'est un piège pour Israël. Nasrallah l'a dit la semaine dernière. Il a dit en arabe, bienvenue aux Israéliens. Ça permettrait au Hezbollah qui a perdu sa légitimité de résistant depuis 2000, qu'il n'y a plus de soldats israéliens au Liban, de la retrouver et donc d'apparaître comme une nouvelle force, etc. Mais ce qui est important aussi de comprendre aussi, c'est que les bombardements israéliens se concentrent pas uniquement, mais sur cette portion de territoire entre le Litanie et la frontière israélienne. Là, c'est le bastion du Hezbollah, le bastion qui a pris beaucoup de coups. Et ce qu'Israël aussi voudrait faire, c'est que il voudrait que sur cette portion de territoire, il n'y ait plus notamment de gens de la force Radwan, l'unité d'élite du Hezbollah,
qui d'ailleurs a été pour partie décapité, si j'ose dire, après les frappes
israéliennes. Et dont l'un des objectifs, on m'en avait parlé il y a quelques années, on me disait on songe, nous, effectivement, à faire une opération, une pénétration en Israël, ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre. Donc, les Israéliens souhaitent effectivement, je dirais, vider de toute présence du Hezbollah cette région, mais pour l'instant, ça n'est pas réalisé.
On peut se poser la question de savoir si c'est réalisable. C'est
exactement.
75% de la population de cette région est chiite.
Comme le Hezbollah, Patricia Lemonnier.
Ouais, d'autant que les Israéliens disent il faut effectivement appliquer cette résolution et donc qu'il n'y ait plus d'armes jusqu'au fleuve Litanie. Après, on pourrait à la limite pratiquement accepter un cessez-le-feu. Ce qui est absolument illogique parce que aujourd'hui le Hezbollah dispose de missiles, mais pas que là. Partout, il peut tirer pratiquement deux tirs avec des missiles qui vont toucher Israël.
Dont des missiles longue portée.
Donc, l'idée C'est grossier de dire oui, ben nous accepterions à la limite la diplomatie de jouer si la résolution 1701 est appliquée. Cette résolution 1701, compte tenu des forces du Hezbollah et des forces d'Israël, n'a plus aucun sens aujourd'hui. Donc, et en plus, elle est complètement déconnectée de la vraie question. La vraie question, elle est politique. Et donc, sans pensée politique, tout règlement qui s'est fait jusqu'à présent sans poser la question palestinienne qui est au cœur de la crise du Proche-Orient, eh bien, on voit bien que c'est sans arrêt une nouvelle guerre qui commence.
Georges Malbruno, je vous ai lu dans Le Parisien. Dans Le Parisien. Non. Que dis-je ? Dans Le Figaro, ce matin, vous signez un excellent papier. Mais Le Parisien est un excellent journal aussi. Un papier dont le titre est « La guerre sans cesse recommencée d'Israël au Liban ». Vous décryptez, décortiquez les précédents, ceux de 82, ceux de 2006. Si d'aventure il y avait une offensive terrestre, ça ressemblerait à laquelle des deux? Au fond, vous dites, le risque pour Israël, c'est un bourbier, c'est-à-dire
un bourbier, parce que quand vous rentrez, vous savez pas quand vous allez ressortir. Ils sont rentrés en 78, 82, l'invasion Beyrouth. Après, ils sont retirés au sud.
Cela aboutit à la création du Hezbollah. En 82.
Ça aboutit à la création du Hezbollah, effectivement, et ensuite ils se retirent au sud. Donc, je pense que c'est un bourbier parce que le Hezbollah, encore une fois, n'attend que ça. Le Hezbollah dira, regardez, on lutte contre une occupation, et donc les Libanais qui depuis 18 ans ou 2000, depuis 24 ans, 2006, qui leur disent 2000, arrêtez de nous dire que vous résistez, il n'y a plus d'occupation. Donc là, ils regagneraient, je dirais, une légitimité. Et puis après, effectivement, il faut tenir, vous exposer. Et puis ça place l'armée libanaise dans une position intenable. Parce que lorsque Israël va avancer, le Hezbollah lui va reculer. Et donc les Libanais ou le Hezbollah va dire... Armée libanaise, c'est à vous d'aller affronter l'armée israélienne. Donc l'armée libanaise, même s'il y a beaucoup de chiites, n'a pas vraiment envie de se ramasser une raclée. Mmh. Et donc c'est un piège aussi pour l'armée libanaise. Donc je pense que ça fait partie encore. Les Américains ont dit, on ne voit pas une offensive terrestre dans l'immédiat. Ça fait partie un petit peu de la pression psychologique, mais il faut pas l'exclure parce qu'il pourrait. Je pense que Netanyahou est dans une volonté de mettre la pression sur le Hezbollah à tel point de dire il faut cette fois-ci céder. Parce que de 2006 à maintenant...
Mais qu'est-ce que ça veut dire céder?
Céder, ça veut dire capituler. Or, le Hezbollah ne capitulera pas.
Avec une situation, Thierry Rano, singulière en Israël. Autant l'opération dans le sud d'Israël suscite plus que des débats, des immenses controverses sur le sort des otages, sur les dimensions, la proportionnalité de ce qui s'est passé à Gaza avec le nombre de victimes civiles que l'on sait. Autant le déplacement de la guerre vers le nord est beaucoup plus... consensuel, si j'ose dire, avec cet objectif de guerre qui est rappelé par le cabinet de Benjamin Netanyahou, permettre le rapatriement, le retour des 60 000 déplacés près de la frontière libanaise.
Oui, tout à fait, et ça illustre le fait qu'il y a des considérations de politique intérieure dans cette opération qui sont évidemment primordiales. Benjamin Netanyahou, il doit restaurer son image, se positionner à nouveau auprès des Israéliens comme celui qui garantit la paix et la sécurité d'Israël après, de ce point de vue, le désastre du 7 octobre, bien sûr. Il sait aussi par ailleurs qu'au moindre signal de concessions qui pourraient être interprétées comme une faiblesse, il est sous la menace permanente de l'extrême droite de sa coalition, une menace qui a été réitérée aujourd'hui par Itamar Ben-Gvir, qui est le ministre de la Sécurité intérieure, membre du parti de l'extrême droite, et qui a dit « Moi, je suis contre tout accord de cessez-le-feu provisoire, et si d'aventure on devait aller vers un accord de cessez-le-feu définitif, nous quitterions la coalition, et si ce parti d'extrême droite, Benjamin, quitte la coalition, ça fait tomber le gouvernement, et ça fait tomber Benjamin Netanyahou tout de suite. » Qui par ailleurs, c'est pas une considération essentielle, mais elle doit être quelque part dans un coin de sa tête et sous le coup d'un procès pour corruption et pourrait se retrouver face à la justice israélienne.
30 secondes, Jean-Marc Bruno.
Ce que fait le Hezbollah en tirant des roquettes sur le nord d'Israël, c'est une première depuis 1948. La doctrine militaire d'Israël, c'est on porte le danger en dehors de nos frontières. Ouais. Là, depuis un an, il y a une bande israélienne de territoire qui a été vidée de ses habitants. Et donc, Israël, effectivement, se retrouve là, presque, je dirais, acculé. Et donc, on comprend pourquoi, effectivement, ils veulent faire cesser cette situation.
Oui, enfin, le Hezbollah, je vais juste dire un petit mot, rapidement, le Hezbollah, c'est aussi... celui qui permet de réunir la nation autour d'un même homme, c'est-à-dire Benjamin Netanyahou, tout comme l'Iran.
Merci beaucoup Patricia Lémonière, Georges Malbruno, Thierry Arnaud, d'avoir été les invités de Tout le monde veut savoir. On fait une toute petite pause et juste après, le duel du jeudi, comme un air de débat présidentiel de 2007, face à face, Ségolène Royal. Elle était candidate, Et Henri Guénot, lui, conseillait le candidat Nicolas Sarkozy, le duel du jeudi. Ségolène Royal contre Henri Guénot, c'est dans un tout petit instant. Restez avec nous. À tout de suite.
Tout le monde veut savoir. Benjamin Duhamel.
Vous regardez Tout le monde veut savoir et tout de suite, le duel du jeudi. Et je vous présente mes débatteurs, mes duellistes du jeudi. Bonsoir Ségolène Royal.
Bonsoir.
Ancienne candidate à l'élection présidentielle en 2007. Et bonsoir Henri Guénot.
Bonsoir.
Ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, ancien député, ancien haut-commissaire au plan. Tu sais, on reproduit en quelque sorte...
Commissaire général.
Commissaire général, pardon.
C'est maintenant que c'est haut-commissaire.
On reproduit en quelque sorte voilà, le débat présidentiel de 2007, si. Quasiment.
C'est le fantôme de Nicolas Sarkozy.
Je viendrai le dire, le fantôme de Nicolas Sarkozy. Il est le principal
positif,
intéressé après Syrah. Ségolène Royal, Henri Guénot, je voudrais qu'on commence par le meurtre de Philippine et le profil du suspect marocain condamné pour viol, frappé d'une obligation d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée, se pose la question d'éventuels dysfonctionnements de la justice, de la politique migratoire, avec précisément ces OQTF qui ne sont pas suffisamment exécutés. La faute à qui, Ségolène Royal ?
D'abord, je voudrais dire, moi, que c'est effroyable. C'est-à-dire que tous les parents qui ont une fille, toutes les femmes, ressentent viscéralement cette souffrance, cette douleur, cette violence sur les femmes. Et quand on regarde l'actualité, en plus, c'est tous les jours. Oui. Regardez le procès de Mazan et tout ça. C'est dans quelle société on vit, quoi. C'est effrayant. C'était censé reculer la violence faite aux femmes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a une accentuation de cette violence. Et cet après-midi, c'est trop que je passais devant un collège et j'ai vu des petites collégiennes qui parlaient de ça. Ça m'a fait mal au cœur parce que je me suis dit, mais ces petites jeunes filles qui rentrent dans une société soi-disant civilisée, enfin la société française, voilà, et qui sont confrontées tous les jours à cette actualité, c'est vraiment effrayant. Et c'est pour ça que votre question est tout à fait justifiée, c'est-à-dire que, où sont les dysfonctionnements ? Je dirais que le premier, c'est pourquoi est-ce qu'il n'était pas encore en prison, en clair ? Il est condamné à 7 ans, pourquoi est-ce qu'il a eu des réductions de peine ? Et ce qui m'étonne...
Il était à l'époque automatique quand il a été condamné.
Eh ben, est-ce qu'il faut que vous êtes sûr
ils
que
ne le sont plus depuis 2023, mais ce n'était pas rétroactif.
Oui, oui ben, et pourtant, c'était 2023, il était encore en prison.
Oui, mais la condamnation était datée de 2019.
Oui, donc il y a quand même un problème, on est d'accord. Et sur des crimes comme les viols, se pose vraiment la question du maintien en détention, puisque de toute façon, il y a quasiment systématiquement récidive. Donc ça, c'est le premier point. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on ne voit pas l'avocat. D'habitude, les avocats, ils sont sur tous les plateaux. Qu'a dit l'avocat au juge pour obtenir une libération, pour obtenir une prolongation de la rétention ? Ça, c'est la première question. C'est quand même, ce serait intéressant à savoir. Et deuxièmement, à un moment, on voit que cet individu dit « mais moi, je veux retourner au Maroc ». Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il n'est pas emmené dans l'avion pour retourner au Maroc ? Pourquoi est-ce qu'on attend une autorisation alors qu'il déclare devant le juge qu'il est prêt à retourner au Maroc ? Pourquoi immédiatement, la police ne le prend pas, l'emmène à l'aéroport, le met dans l'avion ?
Parce que le laissez-passer consulaire n'a pas
non,
encore
été... Non, mais il est marocain, il a le droit de retourner dans son pays. Il est marocain. Pourquoi est-ce qu'il faut un laissez-passer consulaire ?
Je crois que dans le cas d'espèce, il n'a pas de papier. Et que c'est d'ailleurs ce qui est notamment...
Il n'a pas de papier, il a des papiers marocains. Donc, alors qu'il déclare, c'est pour ça qu'il s'évade dans la nature, il déclare vouloir retourner au Maroc et personne ne l'emmène dans un avion pour retourner au Maroc. C'est quand même, il y a deux questions majeures.
Henri Guénot, Ségolène Royal décrit une succession de dysfonctionnements. Font la question qui se pose, c'est est-ce que là, c'est une forme de laxisme judiciaire qui a prévalu et qui a abouti à ce drame ?
Alors, vous savez, moi, je suis rarement indulgent avec les juges, oui. Parce qu'ils n'ont pas de principe, il n'y a pas de principe de responsabilité, puis... Certains font passer leur idéologie avant le respect ou l'application des lois. En l'occurrence, je ne dirais pas cela. Voilà. Je ne dirais pas cela parce que le juge n'a pas commis d'erreur de droit dans cette affaire.
Il a appliqué la loi.
Le juge a appliqué la loi. Alors, on en était à la quatrième demande de prolongation de la rétention. Mmh. Elle est parfaitement encadrée par la loi, il a appliqué la loi. Et l'ordonnance qu'il a rendue ne montre pas qu'il cède à une idéologie de laxisme. rien du tout. Il applique la loi. C'est un peu comme à regret. Hein, c'est, oui. Voilà. Je pense que on verra ce que dit la suite des enquêtes. Mais je pense qu'on ne trouvera pas d'erreur de droit. Alors on peut considérer qu'il aurait dû quand même, mais il aurait transgressé l'esprit de la loi tel qu'il est. Le texte est mal rédigé. Tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Il faut être confronté à un drame comme celui-ci pour commencer à se poser des questions sur la façon dont on rédige les textes. En réalité, ce drame, qui est un drame absolu, il devrait nous obliger à penser d'abord le phénomène de la violence dans nos sociétés. Alors, c'est vrai pour les vis-à-vis des femmes, c'est vrai vis-à-vis de tout le monde. C'est-à-dire que la montée de la violence dans la société, elle devient extrêmement inquiétante, pas seulement en France et ailleurs. Et tout notre système est en train de craquer de toutes parts, c'est-à-dire que tout est saturé. Nous ne sommes pas armés, nous ne nous armons toujours pas pour lutter contre cette violence et pour essayer de, une fois qu'on a analysé la nature de cette violence, sélectionner ce qui est totalement inadmissible et insupportable. C'est-à-dire, il y a des formes de violence, il y a des formes de crimes qui mettent en danger véritablement tous les fondements de la vie en société. Et cela, il faut pas les traiter comme les autres. Alors, pour les OQTF, s'il fallait un laissez-passer consulaire, si on veut que les autorités marocaines le reprennent, ce laissez-passer a été demandé, il y a eu une erreur administrative, ça c'est un vrai dysfonctionnement.
Et il a été délivré trois jours après.
Je crois le lendemain.
La sortie du suspect.
Non, après l'audience.
Que ce point-là mérite d'être vérifié, parce que tout le monde répète les mêmes arguments, mais non. Il est marocain, il a le droit de retourner dans son pays.
Non, mais il a le droit, mais ils ont le droit de faire un peu.
En l'espèce, je vous répète ce qu'il faut, il n'avait pas de papier d'identité sur lui.
Alors, comment on connaît son nom ?
Comment ?
Comment on sait qu'il est marocain, alors ?
Parce qu'il est inscrit dans un fichier, il a été condamné, mais il ne dispose pas de papier d'identité, c'est ce que dit le juge.
Hein. À ce moment-là, on demande au consulat du Maroc en France de lui délivrer ses papiers. Enfin, il y a quand même là une problématique. Pourquoi il y a une problématique ? C'est parce que si, effectivement, les délinquants acceptent de retourner dans leur pays, il faut tout de suite les raccompagner. Et dans la négociation, effectivement, devant le juge, ça pourrait être un élément clé. Là, ça peut être fait tout de suite, il n'y a pas besoin de refaire un texte de loi. Par ailleurs, moi, ça ne me gêne pas de le répéter, parce que même si ce n'est pas la position traditionnelle de la gauche, c'est que je pense que tous les étrangers, qu'ils soient en situation régulière ou irrégulière et qui sont délinquants, doivent retourner dans leur pays. Et ça doit être fait au moment du premier jugement. Parce que là, ce qu'on observe aussi, c'est que la demande de l'autorisation consulaire, elle a été faite très tardivement. Elle a été faite au mois de juin. Elle devrait être faite au moment de la première condamnation, c'est-à-dire en 2019. Puisqu'on sait qu'il va être condamné, on demande pour qu'au moment de la sortie de prison, il y ait immédiatement reconduite à la frontière.
Je voudrais, Céline Royal-Henri Guénaud, vous soumettre une réaction qui, pour le coup, là, est sans doute quelque peu orthogonale à la majorité des réactions politiques, celle de Sandrine Rousseau, la députée écologiste, qui disait la chose suivante, la vie d'une femme... c'était un autre tweet. Philippine a été sauvagement assassinée, la personne arrêtée est marocaine sous OQTF, ce féminicide mérite d'être jugé et puni sévèrement, l'extrême droite va tenter d'en profiter pour répandre sa haine raciste et xénophobe, nous sommes plus forts que cette récupération. Est-ce que vous considérez, hashtag no pasaran, est-ce que vous considérez, Henri Guénaud, qu'il y a de la récupération politique autour de ce drame ?
Oh, il y a sûrement de la récupération politique autour de ce drame, comme autour de tous les faits divers, et elle peut venir de la droite ou de la gauche selon les cas. C'est pas le sujet. Le grand théâtre de la politique est une chose. La vie dans notre société et la mort d'une enfant en est une toute autre. Donc, je pense qu'encore une fois, il faut regarder. D'abord, non. Moi, je refuse de regarder l'origine des gens. Un violeur est un violeur, quelle que soit son origine. On vient d'en discuter, c'est-à-dire que le fait qu'il soit étranger, qu'il soit rentré illégalement en France à l'âge... Enfin, pas illégalement, il est rentré légalement avec un visa de tourisme à 17 ans, et qu'il ait violé, jeune fille, pose la question, effectivement, de la manière dont nous gérons les flux migratoires et le maintien sur le territoire français de ceux qui n'ont rien à y faire. Une fois que son visa était expiré, il n'avait plus rien à y faire. Ça, encore une fois, ça nous oblige à la fois à réfléchir à la société que nous voulons et aux moyens que nous nous donnons pour la préserver. Et ces moyens, nous voyons bien que nous, pour l'instant, nous ne les avons plus. Voilà, c'est, alors, on peut accuser la préfecture d'avoir manqué de vigilance. On peut accuser la justice, pour une fois, je pense, a fait son travail. Elle pouvait pas demander l'interdiction du territoire français. Enfin, elle pouvait pas le condamner à l'interdiction du territoire français au moment du premier jugement parce qu'il était mineur. Bon, il y a toute une série de choses qui demandent une révision complète des fondements de notre code pénal et de notre cadre législatif.
Mais... messieurs, dames, je voudrais vous faire écouter puisqu'on parlait d'immigration et vous disiez il y a un instant, Ségolène Royal.
Sur le tweet.
Alors, allez-y, oui, sur le tweet de Sandrine Rousseau.
Le tweet est une récupération politique aussi.
Bien sûr. Oui,
c'est
bien
ça qui est aberrant. C'est-à-dire, en mettant même.
Et
même
dire qu'il ne faut pas faire de récupération politique est une forme de récupération.
Et en attaquant l'extrême, c'est une récupération politique.
Vous avez parfaitement raison.
Mais, là-dessus, mais il y a voilà, mais. Convergence entre.
Non,
Henri
mais
Guénaud et
Non, ça sert à. J'allais dire, ça sert à rien.
Non,
dans,
et puis
dans
même
débat,
par rapport à l'atrocité du crime,
j'ai
bidouillé un truc sur. C'est pas correct, quoi. C'est pas.
Il y a un instant, Ségolène Royal, vous disiez que sur les questions d'immigration, vous n'aviez peut-être pas des positions tout à fait majoritaires à gauche.
Non, pas oui.
Je voudrais vous faire écouter ce que disait sur ce plateau la candidate du Nouveau Front Populaire pour Matignon, Lucie Castet. Elle était sur ce plateau il y a deux jours. Je précise que son interview avait lieu quelques minutes avant que l'on apprenne l'interpellation du suspect et son profil. Mais de fait, cela sonnait. De façon assez singulière, écoutez, Lucie Castet, c'était sur ce plateau il y a deux jours.
Moi, ce que je dis sur l'immigration, c'est qu'on a manifestement un problème d'accueil.
Ma question, c'est est-ce que vous étiez pour la régularisation de tous les sans-papiers ?
Pour la régularisation des sans-papiers, oui.
De tous les sans-papiers ?
Il faut que je regarde davantage, mais plutôt favorable à ça, oui.
C'est-à-dire tous les sans-papiers ou seulement ceux qui travaillent ou...
Tous les sans-papiers.
D'accord, donc même ceux qui ne travaillent pas.
Oui, les migrants sont stigmatisés en permanence, ce sont des gens qui contribuent au fonctionnement de la société, ce sont des gens qui payent des impôts, qui font fonctionner la société. Par ailleurs, on l'a vu lors des débats sur la binationalité et sur la préférence nationale, on a vu à quel point ça mettait en difficulté le secteur économique que le Rassemblement National stigmatise à ce point et déclare vouloir écarter les étrangers du travail en France.
Mais c'est
je pense qu'il faut une régularisation importante des sans-papiers, je ne sais pas si c'est l'intégralité, il faudra que je regarde, si vous voulez, la prochaine fois que je viens, on en reparle pour que je confirme cette position.
Henri Guénaud, régularisation de tous les sans-papiers, ceux qui ne travaillent pas, et à la fin, Lucie Castet précise, bon, il faut que je regarde.
Oui. Bah oui, parce qu'elle se rend peut-être compte que c'est intenable. Enfin, si vous voulez, on peut avoir toutes les idées les plus généreuses du monde de vouloir accueillir tout le monde, mais il y a un problème dont nous devons tenir compte, c'est la capacité de la société, de l'économie et de la société à absorber ces flux et la montée du rejet qui n'est pas propre à la France, qui est un rejet qu'on retrouve dans tous les pays occidentaux. Voilà. Regardez aux États-Unis, regardez en Allemagne. Voilà. Et donc, il faut en tenir compte. Pourquoi ? Parce que sinon, on se condamne à la violence, on condamne les immigrés à un sort funeste. Voilà. On peut dire ce qu'on veut, mais il faut se souvenir du sort qui a été fait aux réfugiés espagnols et allemands à la fin des années 30.
Donc c'est quoi ? C'est de l'incompétence, de la naïveté,
C'est de l'idéologie aveugle
c'est une position idéologique qui se croit humaniste. Mais non, parce que si, d'abord, c'est impossible de régulariser tous les sans-papiers, d'une part...
C'est quand même, celle qui devait être à Matignon pour le Nouveau Front Populaire.
Oui, mais il y a peut-être un problème, justement, d'expérience et de compétence. Mais je dis ça sans méchanceté, mais c'est vrai qu'il y a un mélange, parce qu'à la fois, elle dit, mais les travailleurs étrangers nous font vivre, etc. Mais alors, en principe, ils ne devraient pas être sans papier. Mmh. Voyez. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que s'il y a de l'abandon, finalement, des règles, à ce moment-là, les premières victimes, ce seront les étrangers en situation régulière. Et d'ailleurs, combien de fois on entend dire les étrangers en situation régulière, mais on en a assez aussi de l'immigration clandestine, de cet afflux d'immigrés, des regroupements familiaux incontrôlés, etc. Et ce sont ceux qui habitent les quartiers, qui voient leurs écoles se dégrader, qui voient leur quartier se dégrader. Donc c'est facile pour les gens qui habitent les beaux quartiers, vous voyez, d'être généreux. Alors que ce ne sont pas eux qui, dans leur quartier, vont subir cela, même si on voit que maintenant les problèmes de maintien de l'ordre et de sécurité sont partout. Mais la seconde chose, en revanche, ce qui différencie un discours humaniste d'un discours d'extrême droite, c'est de dire il doit y avoir un respect pour les migrants parce qu'ils sont poussés
par l'émigration, par la pauvreté. Ils sont poussés par le dérèglement climatique qui fait que dans certains pays, l'agriculture s'effondre et qu'il n'y a plus ni à manger ni à boire pour ses enfants, donc les gens bougent, et qui sont poussés par les guerres. Et aujourd'hui, quand on voit la multiplication des conflits et des guerres, ouais, on sait qu'il va y avoir des migrations massives. Donc la question du rôle diplomatique aussi pour arrêter les guerres et pour faire en sorte que les gens puissent vivre en paix chez eux et en bonne santé et avoir de quoi manger, c'est quelque chose qui est crucial pour limiter les migrations.
C'est vrai, Henri Guénaud, ce drame intervient par ailleurs une semaine où l'on a assisté première passe d'armes au sein du gouvernement Barnier, et notamment, c'est pour le coup directement lié aux questions dont on vient de parler, entre la place Beauvau, Bruno Retailleau, qui a dit qu'il y avait un problème d'inexécution des peines, et le nouveau garde des Sceaux, Didier Migaud, qui lui dit qu'il n'y a pas de laxisme judiciaire et que les peines sont exécutées. Est-ce que ça, c'est pas une machine, Henri Guénaud, à créer de l'impuissance politique, d'avoir des visions qui sont à ce point divergentes entre la place Vendôme et la place Beauvau?
D'abord, c'est pas la première fois. Il y a toujours, et c'est désastreux, mais c'est ainsi, il y a toujours ce jeu de rôle entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais, parce que pendant ce temps, on oublie que si on veut changer le cadre, il faut une volonté politique, il faut un mandat aussi. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut, tout ça ne peut se faire qu'après un débat dans une élection présidentielle qui ne serait pas un rendez-vous manqué, suivi sans doute d'une élection législative, avec un vrai mandat pour changer les choses. Ce mandat, le gouvernement actuel ne l'a pas. Et d'autre part, il n'a pas eu une politique, puisqu'il n'a pas reçu du tout de mandat. Donc, la seule façon d'arriver à ce qu'il y ait une voix unique dans le gouvernement, à des quelques différences de sensibilité près, c'est que ce gouvernement est une politique, parce qu'il a reçu le mandat de faire cette politique, et qu'elle est le ciment du gouvernement et de la majorité parlementaire.
Vous disiez au contraire que c'est légitime d'avoir...
Oui, c'est légitime, parce que c'est dans la Constitution. Il y a l'indépendance de l'autorité judiciaire d'un côté, et puis il y a le ministère de l'Intérieur de l'autre. Mais l'indépendance de l'autorité judiciaire, elle s'exerce dans le cadre des lois. Mmh. Et c'est normal que tout le monde ne pense pas la même chose. Justement, gouverner, oui, c'est de trouver un juste équilibre. C'est de dire, oui, ben non, ce que vous dites là n'est pas tout à fait juste.
Vous avez raison.
Et de trouver un arbitrage qui protège la société d'une part. Et il n'est pas anormal non plus que le garde des Sceaux défende la magistrature. Mmh. Oui, c'est pas au ministre de l'Intérieur, il doit déjà s'occuper de la police, de la gendarmerie. Donc c'est pas extravagant que dans une démocratie
parlementaire. Non, c'est pas extravagant, mais il est normal
que le garde des Sceaux défende la magistrature.
Il est normal que le garde des Sceaux défende
et qu'on ne puisse pas généraliser en disant toute la magistrature est laxiste. C'est pas digne de dire des choses comme ça. Surtout quand on voit en plus les moyens de fonctionnement, parce que souvent, effectivement, certains passent entre les mailles parce qu'il y a des moyens de fonctionnement
C'est vrai pour la magistrature, c'est vrai aussi pour la police et la gendarmerie. Quand on regarde les moyens,
ils en ont eu beaucoup.
C'est vrai pour les centres de rétention, c'est vrai pour... Pour toute la politique d'assimilation, comme je disais tout à l'heure, cette société est en train de craquer. C'est-à-dire, tout le système est en train de craquer par à la fois parce que le nombre à traiter est considérable, parce que les moyens, eux, ne sont pas du tout à la hauteur. Maintenant, le fait que la magistrature soit indépendante ne fait pas du garde des Sceaux le porte-parole de la magistrature. Le garde des Sceaux, il appartient à un gouvernement et il est normal. Et ce gouvernement doit absolument se mettre d'accord.
Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, il faut qu'une ligne politique soit définie.
Mais
oui, parce que
on peut pas dire à l'Assemblée générale que la ligne soit d'une clarté
publique. Non, elle est pas claire.
Mais elle peut pas.
Il y a une vacance du pouvoir pendant 2 mois.
Ouais, elle
donc
peut
c'est
pas
pour ça aussi
clair.
Qu'il y a du cafouillage.
Puisque il y a pas de mandat. Il y a pas de mandat qui sort des urnes.
Ouais.
Et puis par ailleurs sur l'accusation de laxisme, vous savez ce qui manque cruellement aujourd'hui, parce qu'on dit tout fout le camp. Mais non, il y a aussi des choses toutes simples qui pourraient remettre d'aplomb la société et lutter contre toutes les formes de violence. C'est la remise en place de la police de proximité. Il y a plus de patrouilles. Il n'y a plus de patrouille de policiers dans les rues nulle part. Il y en a eu pendant les Jeux Olympiques. Mmh. Ça a formidablement fonctionné. Est-ce que tous les Français, honnêtement, tous les Français disent, et notamment dans les villes, c'est on veut revoir le dispositif qui a été mis en place pendant les Jeux Olympiques, où on voyait la police.
Non, ça c'était
et regardez,
Paris,
aux abords des universités, aux abords des
Paris,
écoles,
à Paris,
il faut mettre de la police de proximité.
En province, il y en avait plutôt moins.
Ségolène Royal, il y a un instant qu'il y avait une vacance du pouvoir pendant 2 mois et que ça cafouillait un petit peu. Oui. Je voudrais, dans les minutes qui nous restent, aborder l'autre couac de la semaine. C'est ce qui s'est passé avec le ministre de l'économie qui après avoir le matin dit à la radio que le Rassemblement National ne faisait pas partie de l'arc républicain, a été recadré par le Premier ministre, Michel Barnier, qui l'a appelé. Le Premier ministre qui a également appelé Marine Le Pen pour lui redire que son ministre avait mal compris quelle était la philosophie générale. Ça confirme, Ségolène Royal, que le gouvernement est au fond tenu par Marine Le Pen. Est-ce que c'est le rôle du Premier ministre d'appeler Marine Le Pen pour s'assurer qu'elle ne prenne pas mal une déclaration d'un de ses ministres ?
Ça me choque pas.
Ah bon ?
Non. Bon. Je vois non, tout ce qui lui tombe sur. Non. Alors l'accumulation de reproches, honnêtement, c'est le ministre qui a fait une erreur. Mais c'est plutôt recruter des ministres néophytes à des postes de responsabilité. C'est important, ce qui est un problème.
Ah oui. Parce qu'on peut pas être ministre de l'économie et des finances à 33 ans.
Si on n'a pas d'expérience politique et si
député.
Oui, mais ce que les Français attendaient, c'est des ministres expérimentés, je pense, qui savent de quoi ils parlent, qui ont déjà des ministères en main, etc.
C'est un nouvel acte de candidature que vous faites.
Non, ce n'est pas ça. Bon, mais voilà. Honnêtement, c'est vrai.
Là, vous êtes taquin.
Ah, non, pas jamais.
Les ministres sont bombardés comme ça, ministère de l'économie et des finances. Bon, ils ont leur phase d'adaptation, si j'ose dire, mais d'une grande maladresse. Puisqu'on sait parfaitement que
c'est
effectivement le groupe du RN qui maintient actuellement le pouvoir. Le choix a été fait.
C'est pas une maladresse.
Moi, je pense, pour faire terminer, que ce qu'il faut, c'est pas juger un Premier ministre sur un coup de fil, c'est juger un Premier ministre sur les actions qui vont être menées. Et on espère qu'elles seront bonnes, ces actions.
Non, mais là, il y a un problème. C'est pas une maladresse. C'est une faute. Quand on est ministre, alors il y a des gens qui ont du mal à faire le passage d'une situation ordinaire à la situation. Quand on est ministre de tout le monde. Voilà. Quand on est président de tout le monde. Et quand on reçoit les représentants des partis qui siègent à l'Assemblée, on les reçoit tous. Voilà, la question ne se pose même pas. Oui, le Premier ministre a eu raison.
Non, c'est pas ça l'idée, c'est qu'il a dit qu'ils n'étaient pas dans l'arc républicain.
Mais c'est ce qu'il a dit. Donc,
il a mélangé les deux.
Donc il a dit qu'il ne les verrait pas.
Ce qu'il laissait entendre, effectivement, qu'il pourrait ne pas les recevoir. Voilà. Mais qu'un ministre, dit-il, élu à la suite d'un Front républicain, le Rassemblement national ne fait pas partie de l'arc républicain.
Oui, mais il aurait dû continuer en disant « Oui, mais maintenant, je suis ministre. Ouais. »
Mais voilà,
l'arc républicain, si on ne veut pas qu'il vote la censure, s'il me demande rendez-vous, je les recevrai.
Donc simplement, non mais Henri Guénaud, pardon, mais quand le Premier ministre est obligé d'appeler Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas un signe d'allégeance ? Est-ce que vraiment vous pensez que vous étiez conseiller Nicolas Sarkozy ou député, un Premier ministre aurait appelé une des principales chefs de l'opposition pour lui dire « Non, vous inquiétez pas, vous avez mal compris. »
D'abord, vous avez mal compris dans la mesure où, encore une fois, c'est une faute vis-à-vis du fonctionnement normal et des devoirs d'un ministre, c'est une faute, donc on peut très bien s'excuser. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est quand même la réalité de notre vie politique à l'instant où nous parlons. C'est-à-dire que à ce moment-là, on fait un gouvernement qui dit voilà, il y a des gens qui sont dans l'arc républicain, d'autres pas, je ne discuterai pas avec eux, et on attend que le gouvernement soit renversé. Mais
pourquoi est-ce qu'elle le raconte, Marine Le Pen? On peut pas à la fois demander d'être intégrée, d'être respectée, etc., dans le fonctionnement normal des institutions. Elle n'a pas à mettre sur la place publique, à la limite que le Premier ministre l'a appelée.
Oui, on aurait été sur la place publique, à mon avis.
Merci beaucoup, Henri Guénaud, Ségolène Royal. Je retiens, malgré tout, cette idée qu'il faudrait davantage de ministres expérimentés. Voilà. Sans doute pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Bonsoir, Éric Brunet.